Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne. pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran ce vendredi soir 12 mars 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. La nation iranienne est sortie victorieuse d'un conflit de volonté avec les États-Unis, a souligné le président Rouhani. Le vaccin irano-cubain contre le Covid-19 arrive à Téhéran pour les essais cliniques de phase 3. Moscou appelle au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie. La Côte d'Ivoire décrète un deuil national de 8 jours suite au décès de son premier ministre. C'était le principal titre de l'actualité. En voici le journal. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'ancienne administration américaine avait déployé tous ses efforts, mais n'avait pas réussi à plier l'Iran à sa volonté honteuse et que la nation iranienne est sortie victorieuse du choc des volontés et a vaincu la soi-disant campagne de pression maximale de Washington. Les Américains ont cherché à faire quelque chose pour provoquer l'effondrement de l'ordre islamique, mais notre peuple a enduré les souffrances au cours des 3 dernières années et l'ordre islamique est devenu plus puissant aujourd'hui qu'il y a 3 ans à la lumière des sacrifices de ce grand peuple résilient, a déclaré le président iranien Hassan Rouhani. Les Américains, a-t-il souligné, ont cherché à faire en quelque sorte pour provoquer l'effondrement de l'ordre islamique, mais ils y ont échoué totalement. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le vaccin irano-cubain contre le Covid-19 arrive à Téhéran pour les essais cliniques de phase 3. Un lot de 100 000 doses du vaccin Soberanard 02, un vaccin contre le Covid-19 développé conjointement par l'Institut Finlay de Cuba et par l'Institut Pasteur d'Iran, est arrivé à Téhéran pour les essais cliniques de phase 3, a rapporté la télévision iranienne. Les essais cliniques de phase 1 et 2 ont été menés avec succès à La Havane sous la supervision de l'Institut Pasteur d'Iran. Compte tenu des résultats positifs, les essais de phase 3 seront menés simultanément à Cuba et en Iran, a indiqué dans un communiqué le porte-parole de l'Agence iranienne des produits alimentaires et médicaux. Moscou a appel au respect de l'intégrité territoriale de la Syrie. En visite à Doha, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné la nécessité de préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Syrie, tout en dénonçant les sanctions occidentales illégales qui, selon lui, empêchent de résoudre les problèmes humains dans le pays. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a assisté, c'était ce jeudi 11 mars, à une conférence de presse conjointe à Doha avec ses homologues qataris et turcs, respectivement Mohamed Bin Abdurrahman Al-Thani et Mouloud Çavuşoğlu. Il s'agit d'une première réunion au niveau des ministres des Affaires étrangères des trois pays sur la Syrie, les trois ministres ayant plaidé à l'unanimité pour un règlement politique de la crise en Syrie. Appelant au respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de la Syrie, Sergueï Lavrov s'est prononcé en faveur de la poursuite des actions et des efforts internationaux pour favoriser le retour volontaire des réfugiés dans les conditions sécurisées. De même, il a indiqué que le retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe est inévitable et contribuera à la stabilité, à la réconciliation dans toute la région. Le leader du mouvement yéménite d'Ansar Allah, la résistance yéménite d'Abdul Malik al-Houssi, a condamné les conspirations des États-Unis et du régime israélien pour garder les nations musulmanes dans un état d'instabilité et d'agitation permanente. Il a ajouté que les organisations takfiristes comme Al-Qaïda et Daesh rendent également service aux États-Unis, au régime sioniste et à leurs alliés occidentaux et régionaux, leur permettant de justifier leur présence illégitime dans la région. Al-Qaïda et les takfiristes détruisent les pays arabes pour rendre service à l'ennemi israélien ou aux États-Unis. Leur plan est de contrôler directement la nation après l'avoir amenée à l'effondrement total, a-t-il souligné. Et le leader d'Ansar Allah de conclure, les takfiristes sont le principal outil de mise en œuvre du projet américano-occidental israélien. Évoquant l'impact des sanctions occidentales anti-russes de Vladimir Poutine, a affirmé que les restrictions politiquement motivées de pousser la Russie à prendre des décisions qui aboutissaient à des résultats positifs. Lors d'une réunion consacrée à l'investissement, Vladimir Poutine s'est penché sur l'effet positif des sanctions internationales pour la Russie. Il a expliqué que de telles mesures incitaient le gouvernement à prendre des décisions qui fournissaient de bons résultats. Ce qui est important, selon le président russe Vladimir Poutine, c'est de créer des conditions compétitive pour faire des affaires au sein du pays ainsi que d'attirer des investissements. La Côte d'Ivoire, un deuil de national de 8 jours suite au décès du Premier ministre. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a décrété un deuil national de 8 jours suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, selon l'agence chinoise Xinhua. Au cours de cette période de deuil national de 8 jours, à compter du vendredi 12 mars 2020, les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire, indique un communiqué officiel. Le chef du gouvernement ivoirien Ahmed Bakayoko est décédé hier mercredi en Allemagne des suites d'un cancer à l'âge de 56 ans. Il est cumulé les fonctions de Premier ministre et de ministre de la Défense. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. La nation iranienne victorieuse d'un conflit de volonté avec les États-Unis, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré que l'ancienne administration américaine avait déployé tous ses efforts mais n'avait pas réussi à plier l'Iran à sa volonté honteuse et que la nation iranienne est sortie victorieuse du choc des volontés et a vaincu la soi-disant campagne de pression maximale de Washington. Les Américains ont cherché à faire de quelque sorte pour provoquer l'effondrement de l'ordre de la République islamique, mais notre peuple a enduré les souffrances au cours des trois dernières années et l'ordre de la République islamique est devenu plus puissant aujourd'hui qu'il y a trois ans à la lumière des sacrifices de cette grande nation résiliente, a déclaré le président Rouhani dans une allocution à la cérémonie d'inauguration d'un certain nombre de projets nationaux. Les Américains ont cherché à faire quelque sorte pour provoquer l'effondrement de l'ordre islamique, mais notre peuple a enduré les souffrances au cours des trois dernières des années pour faire face à cette politique de Washington, a souligné le président Rouhani. Il faisait référence au mandat de l'ancien président américain Donald Trump qui a lancé la campagne de pression maximale contre l'Iran en imposant les sanctions les plus dures visant à paralyser l'économie iranienne. Les nouveaux dirigeants de la Maison-Blanche annoncent à plusieurs reprises que la politique de guerre économique et de pression maximale menée par l'ancienne administration américaine n'a conduit qu'à la défaite. En d'autres termes, notre nation a remporté une grande victoire, a précisé le président Rouhani. Il a déclaré que cette grande épopée créée par la nation iranienne encourage tous les chercheurs de liberté à travers le monde à résister à l'oppression et à l'agression. Faisant référence aux sanctions unilatérales des États-Unis contre l'Iran au cours des trois dernières années, Rouhani a déclaré que bien que le peuple iranien ait traversé une période difficile, en particulier sur le plan économique, il a remporté de brillantes victoires dans les arènes morales, politiques et juridiques. Et le président Rouhani a précisé que la nation iranienne avait réussi à réaliser une autre épopée honorable grâce à sa résistance face à la guerre économique de l'ennemi après le déclenchement de la pandémie mortelle du coronavirus. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. L'armée chinoise doit être prête à répondre à des situations complexes et difficiles. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président chinois Xi Jinping qui l'a affirmé tout récemment. Le président chinois Xi Jinping qui a également souligné la nécessité d'une dissuasion stratégique de haut niveau et d'un système de combat conjoint et davantage d'innovation technologique dans l'armée chinoise. Et ces remarques du président chinois interviennent à un moment où le ministre chinois de la Défense, Liu Yoxi, a appelé, c'était samedi, l'armée chinoise à renforcer sa préparation de combat, affirmant que la sécurité nationale de la Chine était dans une phase à au risque. Et il faut ajouter à tout cela cette déclaration du ministre chinois des Affaires étrangères qui a en fait appelé le président américain Joe Biden de changer de politique à l'égard de la Chine et de ne pas jouer avec le feu. Et de ces appels des autorités chinoises interviennent à un moment où les tensions entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées ces derniers temps à propos de Taïwan, à propos de la
la mer de Chine méridionale et également à propos de Hong Kong. C'est de ce sujet qu'on va en fait parler avec deux spécialistes des questions internationales dans le cadre de cette émission Le Débat. Mes invités de l'émission d'aujourd'hui sont M. Pierre Dortiguet, philosophe français spécialiste des questions internationales, qui est avec moi pour cette émission depuis Toulouse. M. Dortiguet, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour M. Norestine, bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
Et également, l'autre invité, c'est M. Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui est en ligne avec moi pour cette émission depuis Moscou, capitale de Russie. M. Beurre, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, toujours un plaisir d'être sur votre antenne, en votre présence.
C'est un plaisir partagé. Monsieur Beurre, on va commencer avec vous l'émission d'aujourd'hui. Première question, comment évaluez-vous ces appels et du côté des autorités des Chinoises à l'adresse de l'armée de ce pays pour renforcer sa préparation de combat, pour renforcer sa disponibilité à contrer de toute menace et toute provocation?
Remettre comme toujours dans le cadre géopolitique global et surtout actuel, il y a une nouvelle administration américaine. Celle-ci a confirmé bien évidemment la politique entamée par Donald Trump, qui n'était pas une spécificité à Donald Trump, mais bien un élément global de la politique américaine et des néoconservateurs américains, à savoir que dans le cadre aujourd'hui de cette économie mondialiste financière qui commence à prendre fin depuis 2008, depuis cette crise dont peu de gens en parlent, mais qui a des conséquences immenses et qui est aujourd'hui révélée par cette crise sanitaire mondiale, où on voit aujourd'hui que les États-Unis font tout ce qu'ils font pour essayer de contenir, comme ils le font d'un point de vue géopolitique et militaire avec la Russie, aujourd'hui ils essayent de contenir la Chine, qui retrouve petit à petit sa place sur l'échiquier économique international. Dans ce cadre-là, dans le cadre des négociations commerciales qui s'engagent, chacun montre un peu, on va dire, ses muscles. Les Américains ont fait quelques provocations, d'ailleurs, autour de Taïwan. Et cela, évidemment, c'est une ligne rouge à Pékin, c'est pourquoi nous avons aujourd'hui cette réaction militaire, puisque si tant est que la première puissance économique, la première puissance militaire en tant que budget et sur le papier de force de feu reste toujours les États-Unis, il n'empêche que la montée en puissance de l'armée chinoise est assez importante. Et d'ailleurs, dans les think tanks américains et dans les publications militaires américaines des spécialistes en la matière, il est bien indiqué que la Chine devient de plus en plus, entre guillemets, un danger pour eux, puisqu'elle est en mesure aujourd'hui, effectivement, de se défendre, puisque jusqu'à très récemment, la puissance militaire chinoise était essentiellement militaire terrestre. Il avait une force aérienne très, très petite et une force navale également presque inexistante suite au retrait, on va dire, des forces du Kuomintang nationaliste sur Taïwan, qui avait récupéré tous ces éléments-là. Mais aujourd'hui, la puissance militaire et technologique chinoise monte en puissance, en particulier à peu près, d'ailleurs, dans la même direction que l'armée russe, à savoir sur les missiles, et ça remet en cause, effectivement, la domination américaine dans la région. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, ce qu'a indiqué aujourd'hui les médias donc chinois, c'est que c'est un geste diplomatique fort à destination de la nouvelle administration américaine, qu'une ligne rouge a été franchie et que la Chine est prête à défendre sa souveraineté nationale, puisqu'elle considère, et d'ailleurs à juste titre, que Taïwan est simplement un territoire aujourd'hui séparé du continent, mais il n'y a qu'une seule Chine, et que ceci ne peut pas, on va dire, être changé par l'intervention militaire américaine ou les provocations américaines, puisqu'aujourd'hui les États-Unis essayent un peu de perturber le jeu asiatique, sud-est asiatique, que la Chine a réussi et réussit petit à petit à ramener autour d'elle avec l'union économique qu'ils ont faite actuellement. Donc c'est un geste diplomatique très fort, mais qui n'est pas simplement un geste par parole, puisque la Chine aujourd'hui met les moyens militaires de sa politique, et pour conserver la paix et pour éviter la guerre, il faut montrer des crocs, et aux États-Unis surtout, il faut montrer les crocs, puisque ils n'arrêtent que lorsqu'ils peuvent effectivement perdre la partie. C'est tout l'enjeu aujourd'hui, effectivement, de ces déclarations publiques et ces démonstrations de force de la Chine vis-à-vis des attentats en guerre de Washington.
Monsieur Dorsey-Gate, est-ce que vous aussi vous estimez, tout comme Monsieur Burr, qu'il s'agit en fait d'une démonstration de force du côté du Pékin pour en fait adresser un message fort à la nouvelle administration américaine?
Oui, en effet, nous ne pouvons pas, contredire, ce que dit Monsieur Burr. En effet, son tableau est tout à fait exact. On peut ajouter, préciser que cette nouvelle administration américaine avait été accusée par les gens autour de M. Trump, peut-être justement, j'entends les gens autour de M. du nouveau président, Biden, a accusé d'être au contraire trop conciliant avec la Chine sur le plan économique, c'est-à-dire de réaliser en somme, de vouloir réaliser des bénéfices financièrement sur une coopération, entre les États-Unis, l'Amérique, de façon générale, le Canada, États-Unis et Chine. Donc, ceci est assez complexe. Il n'y a pas de guerre. Je ne crois pas que le mot de guerre économique, par exemple, puisse être exagéré. Il a son sens, bien sûr, comme toute rivalité de puissance. Mais je crois que dans les négociations aujourd'hui entre la nouvelle administration américaine et la Chine, il y a une apparence et une réalité. Je crois que M. Biden a intérêt aussi à ce que la Chine apparaisse un peu comme, non pas agressive, mais ni menaçante, mais comme un poids, comme un contrepoids à l'influence américaine pour pouvoir, négocier. Mais ce serait plus intéressant, aussi intéressant de voir que visent les Américains dans les négociations actuelles que l'on sait exister avec la Chine. Je crois que, avant de pouvoir y répondre, on ne pourrait y répondre bien sûr qu'avec l'histoire, qu'avec le cours des événements, mais je crois qu'il faut aussi, c'est mon point de vue, m'arrêterai là-dessus, bien préciser que les États-Unis ont intérêt aussi à mettre en évidence ce qu'ils appellent un danger chinois, pour pouvoir maintenir leur influence en Asie et en particulier sur le Japon. Je crois que ceci ne doit pas être... vous avez à la fois une rivalité, qui est exacte, oui, mais aussi, un intérêt à cette rivalité de la part des Américains. Et je dois dire que ceci, bien sûr, n'est pas très... est assez sombre pour l'avenir. Car deux puissances qui veulent, s'affronter ou montrer leur force, évidemment... sont très loin, de vouloir coopérer sur une base saine. Et c'est ce que nous craignons, nous, ici, dans le monde, bien sûr. Il est certain qu'à très long terme, en tout cas, pour les États-Unis et la Chine seront amenés, bien sûr, à accroître leurs différends et certainement qu'il y aura un jour une opposition, même peut-être très violente.
Monsieur de Burr, vous l'avez dit tout à l'heure que l'objectif, du côté des États-Unis, c'est d'endiguer la Chine, de contenir la Chine, et c'est peut-être pour cette même raison que le président chinois Xi Jinping a appelé, à la mise au point d'une dissuasion stratégique de haut niveau. D'autant plus que M. Baer, toujours s'agissant de cet objectif du côté de Washington de vouloir endiguer la Chine, aller vers cette politique d'endiguement de Pékin, peut-être il y a une communauté de vues sur ce point entre l'Europe et les États-Unis, d'autant plus que le ministre allemand des Affaires étrangères, M. Heiko Maas, a appelé à la mise en œuvre d'une politique commune entre l'Europe, l'Union européenne et les États-Unis pour adopter des sanctions contre la Chine. Il a dit que cette politique n'était pas possible avec l'ancienne administration américaine, mais il a souhaité, l'adoption d'une telle politique avec, l'actuelle administration américaine de Joe Biden.
Oui, à part ça, c'est assez amusant parce que
cette politique anti-chinoise n'est pas différente entre Trump ou Biden. Si Biden était si différent que cela, il ajouterait des sanctions commerciales contre Pékin ou il enlèverait des sanctions commerciales contre Pékin. Jusqu'à présent, il ne fait rien. Il est dans la totale continuité. Donc tout ça, ça n'a pas d'importance. Sur l'Europe qui aurait une décision stratégique indépendante, ça, je n'y crois pas non plus. Ils n'ont pas eu de stratégie indépendante géopolitique lorsque les États-Unis ont fait le chantage sur l'Iran, lorsqu'ils sont sortis de l'accord sur le nucléaire. Je ne vois pas pourquoi sur la Chine, d'un seul coup, l'Europe aurait une politique indépendante. Elle fait ce que Washington lui dit de faire, point barre, parce que qui paye commande et qui est aux commandes de la politique étrangère, si tant est qu'il y en ait une, de la Commission européenne, c'est l'OTAN. Donc l'OTAN, qui sait qui la commande, c'est Washington. Donc le cercle est fermé. Pour autant, il y a deux objectifs. Enfin, l'objectif premier des États-Unis, évidemment, c'est ils ont toujours besoin d'avoir un ennemi. Ceci, aujourd'hui, c'est l'ennemi chinois, mais cette fois-ci, également à forte raison. En ce sens que la Chine n'est pas là, à la différence des États-Unis, qui a une prétention d'imposer un modèle unique sur le monde. Son modèle, c'est celui de l'école de Chicago, c'est-à-dire celui des néoconservateurs américains. Je parle en géopolitique, hein, je ne parle pas d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire l'ultralibéralisme que nous avons connu jusqu'à ces dernières années, qui aujourd'hui, effectivement, est dans la panade, et on le voit totalement avec cette crise du coronavirus. On est dans une situation, justement, de changement de paradigme, et les États-Unis essaient de retrouver pied. Et en cela, ils essaient d'amoindrir aussi commercialement l'extension chinoise de par le monde, puisque les routes de la soie ne passent pas seulement par le continent, mais également par voie maritime. Et en cela, lorsqu'on regarde une carte, la présence américaine aussi dans le sud-est asiatique est quand même assez importante. Et leur but, c'est également, effectivement, de contenir la Chine pour qu'elle ne puisse pas venir jusque dans l'océan Indien et donc jusque, par exemple, certains golfes persiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en cela, c'est une situation ambiguë parce que, même aujourd'hui, même si la Chine aujourd'hui, effectivement, recentre son économie sur elle-même, recentre son économie sur son étranger proche, avec l'accord que la Chine a fait avec plusieurs pays européens, qui va mettre en place une sorte de mondialisation, mais régionale, où la monnaie chinoise va commencer à prendre de l'importance et une forme de dédollarisation, mais qui va prendre quand même des années, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'empêche qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, les États-Unis ont besoin de l'investissement chinois dans les bons du trésor, c'est-à-dire dans leurs dettes, pour continuer leurs dettes encore plus aujourd'hui avec leur système fonds qui est dans la continuation de créer une dette sans fin, pour pouvoir continuer à avoir le même niveau de vie, pense-t-il, alors que il y a une déstabilisation, puisque les gens sont de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Évidemment, il y aura une fin à cela, mais ils sont toujours dans cette course sans fin, cette course vers le gouffre. Et les Chinois ont besoin encore à l'heure d'aujourd'hui, dans cette période de transition, que les Américains, qui sont premiers partenaires commerciaux, achètent ces produits. C'est encore un cercle vicieux qui est encore présent, que la Chine essaye de s'extraire. Et aujourd'hui, nous avons effectivement les États-Unis qui essayent de trouver une voie avec leur vieille méthode qui a été validée, enfin qui a été mise en place à un moment par Obama, mais qui faisait encore une guerre, plus les sanctions, qui a été totalement validée pour les sanctions de la part de Trump. Et aujourd'hui, on a de nouveau donc Biden-Harris, qui va certainement mixer les deux, révolution de couleur, et puis les sanctions qui sont continuées comme une arme pour imposer leur point de vue. Ceci étant dit, aujourd'hui, ce qui joue, c'est pas d'empêcher la Chine de prendre la première place de puissance mondiale. C'est de la retarder le plus possible et de trouver un nouveau équilibre. Et en ce sens, nouveau équilibre, c'est-à-dire que les États-Unis veulent conserver leur première des colonies, c'est l'Union européenne. Ce pourquoi, ça vous explique effectivement un mouvement synchrone, on va dire, mais qui commence toujours par Washington ou par New York dans les politiques économiques, politiques ou militaires. Et vous avez tout de suite l'Union européenne qui embraye le pas. Ceci étant dit, il y a un plus grand problème pour le monde occidental en général, puisque si les États-Unis sont toujours empêtrés dans ce domaine, dans cette mondialisation économique, ils ont souvent quand même des réactions qui arrivent à certains moments défendre leurs propres intérêts nationaux. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui en Europe, où des pays entiers ont été totalement désindustrialisés. Et en cela, aujourd'hui, la réponse que ces pays peuvent faire à la Chine, c'est pas quelque chose sur lequel ils ont la main, c'est plutôt la Chine qui a la main dessus. Et c'est cela qui se joue, c'est qui fait qu'il va prendre la main sur le commerce mondial, même si celui-ci se régionalise. Et c'est en fait une guerre sur la monnaie. C'est pas une guerre économique frontale que nous avons encore, puisque c'est l'intérêt de personne par rapport à l'interdépendance que je vous ai expliqué précédemment. Mais on est dans des rapports de force pour essayer de négocier des nouveaux accords dans le cadre de l'OMC. Sauf que dans le cadre de l'OMC, la Chine, sa puissance fait que d'augmenter. Donc on est dans une situation économique qui fait que les États-Unis essayent avec leurs forces militaires de jouer une carte, mais cette carte, c'est peut-être la seule carte qu'ils peuvent jouer dans ce mouvement de balance historique et géopolitique. Et je ne pense pas qu'ils pourront la gagner s'ils le jouent précédemment, c'est-à-dire en voulant imposer leur point de vue sans prendre en compte le point de vue des autres.
Monsieur Dorsiguet, Monsieur Beor a fait allusion tout à l'heure à la présence, à cette volonté du côté de la Chine d'être présente également dans la région et du Moyen-Orient, dans la région du Golfe Persique. L'exemple manifeste en est, Monsieur Dorsiguet, de ces exercices militaires conjoints qui avaient été organisés entre l'Iran, la Chine et la Russie dans le Golfe Persique, la mer d'Oman et l'océan Indien. Monsieur Dorsiguet, on sait que le Moyen-Orient occupe une place importante et dans la politique étrangère de Pékin. On sait également que la politique moyen-orientale de Washington vise, entre autres, la Chine également. La question qui se pose, M. Dorsiguet, est de savoir si, en fait, la Chine, pour pouvoir contrer cette partie de la politique moyen-orientale américaine qui vise, si vous voulez, la Chine, pour contrer, en fait, cela, la Chine a-t-elle besoin et des pays très particulièrement de l'Iran qui est une puissance incontournable de la région.
Naturellement, vous, en posant la question, vous donnez la réponse, si je puis me permettre de dire ça. En effet, elle a besoin de l'Iran, mais je voudrais faire porter attention sur ce fait que la Chine est présente dans tout l'Orient, dans tout le Proche-Orient, y compris même dans l'État d'Israël, puisque, vous savez, il y a un fait significatif, c'est que des compagnies chinoises s'occupe du port de Haïfa, par exemple, de l'aménagement. Et je dois dire que ceci est une affaire financière, bien sûr. Ce n'est pas une occupation par la force, ce n'est pas une occupation par la menace d'une invasion. C'est uniquement par le jeu de l'argent et surtout par le véritable arbre économique à la Chine, c'est la capacité de produire, quelle que soit la qualité, je ne discute pas, mais avec un très bas prix de revenu, un très bas prix de revient. Et ceci intéresse naturellement le marché international. On parle beaucoup de division dans le monde, mais il y a une union dans le monde, qui est une union bien sûr sur des bases que M. Bohr a bien indiquées comme étant malsaines, c'est-à-dire une course vers le crédit, un crédit disons qui est une dette plutôt qui est importante, avec un crédit évidemment qui lui-même ne fait que renforcer cette dette, etc. Et là est véritablement un gouffre. Nous allons vers quelque chose de terrible que nous ne pouvons pas peut-être dessiner très bien. Mais jusqu'à présent, la Chine, comme elle l'a fait d'ailleurs à l'époque, même où le régime communiste est encore plus dur, a toujours cherché, disons, une désalliance, même auprès de pays qui étaient très opposés à elle ou très différents. Je me rappelle, elle continue toujours l'alliance entre le Pakistan, par exemple, et la Chine contre l'Inde. A toujours été, disons, le cas pendant toute la guerre froide, y compris quand le Pakistan appartenait à l'équivalent du NATO, de l'OTAN asiatique. Je dois dire que tout ceci est, à mon avis, n'a de sens de ce dont nous parlons, disons, la base de notre discussion n'a de sens que dans le domaine financier. Je crois que tous les pays, y compris l'Iran, bien sûr, font face à cette nécessité de surmonter par la technologie, par leur capacité d'invention, des courants qui, eux, entraînent la population, toutes les populations vers, si je puis dire, un abaissement du niveau de vie, une difficulté, disons, très importante dans tous les domaines, disons. Nous voyons nous-mêmes ici ce niveau de vie baisser en Europe. Je voudrais simplement rappeler ce qu'a dit M. Bohr, qui est un point de détail, mais qui ne passe pas inaperçu à nos auditeurs, qu'en effet, dans ce conflit dont nous parlons, entre la Chine, par exemple, et puis les États-Unis, leurs clients, l'Europe, elle, est très démunie devant la Chine elle-même. Parce que nous avons une très grande difficulté financière, et je vois par exemple autour de moi, que ce soit à Toulouse, ça a été pour l'aviation, que ce soit dans d'autres régions, nous voyons des entreprises chinoises, des sociétés chinoises, qui sont à pied d'œuvre. Il y a dans cet affrontement économique et militaire, des volumes, des réalités qui sont visibles. Mais il y a aussi cette réalité invisible que je souligne, comme M. Bohr, qui est la réalité financière. Et surtout, M. Bohr a eu vraiment raison de reparler de 2008, la perspective de cette crise économique, cette crise financière qui est imminente. Et je crois que là-dessus, pour résumer un peu notre conversation générale, je crois que la Chine se prépare justement à... par des démonstrations militaires et autres, par des auto-affirmations de puissance, à pouvoir sortir indemne de cet affrontement financier, de cet écroulement financier. Je crois aussi que c'est la grande préoccupation des États-Unis. Ce n'est pas dit ouvertement pour ne pas affoler l'opinion publique, mais je pense qu'il faut le considérer comme étant, disons, l'arrière-plan de toute notre discussion.
Monsieur Tortiguet, un dernier point, très rapidement, d'autant plus que la Chine s'alimente considérablement en énergie depuis le Moyen-Orient.
En effet, c'est pour cela. Elle est très présente au Proche-Orient, au Moyen-Orient. Cette présence parmi les ressources matérielles, les ressources énergétiques, qui est une précaution, justement, contre cet ébranlement qui est un effet imminent, c'est-à-dire que je ne peux pas compter en termes de mois ou d'années, mais je crois qu'on peut, d'ici une dizaine d'années, nous connaîtrons quelque chose de beaucoup plus fort que ce que nous avons connu en 2008.
Merci infiniment, Monsieur Pierre Dortiguet, philosophe français spécialisé des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Monsieur Fabrice Beurre, analyste politique et spécialiste des questions internationales, qui a été avec moi pour cette émission depuis Moscou. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée et je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
France, le déficit commercial s'est détérioré de 7,3 milliards d'euros et s'est établi à 65,2 milliards selon la douane française. En 2020, les exportations françaises se sont contractées dans le contexte de la crise sanitaire Covid-19. Les importations ont également diminué, mais de façon légèrement moins marquée. Le déficit commercial s'est détérioré ainsi de 7,3 milliards d'euros et s'est établi à 65,2 milliards après 57,9 milliards en 2019. C'est le déficit le plus élevé depuis 2012. Comment peut-on analyser cette situation et quelles en seront les conséquences? Décryptage avec Xavier Dupré, analyste et économiste belge.
Oui, vous faites bien de souligner la spécificité de ce rapport des douanes, puisqu'il parle d'un déficit FAB. Que signifie le FAB? En fait, c'est très simple, il s'agit des exportations de biens matériels. Dans les comptes des exportations, on exporte parfois des services, on peut exporter des services, on peut exporter des biens. Ici, il s'agit bien et bien du commerce de biens. Donc, on parle bien de l'industrie française et de ses exportations. Ce déficit a été effectivement, s'est terriblement aggravé au cours de l'année 2020 en raison de spécificités productives françaises. Puisqu'on remarque, comme vous l'avez bien vu, qu'on l'a tous constaté, il y a beaucoup moins de vols internationaux, les aéroports ont parfois été fermés, certains pays restent d'ailleurs fermés. Et donc, ça signifie que du côté de l'industrie aéronautique, eh bien, il y a eu tout simplement moins d'avions à fabriquer et à vendre à des clients finaux. Cela a profondément handicapé un pays comme la France, qui compte un géant comme Dassault dans son tissu productif, de grandes entreprises exportatrices. Il ne faut pas oublier non plus l'importance pour les exportations françaises du secteur des transports et plus particulièrement du secteur automobile. Là encore, d'avril 2020 jusqu'il y a un mois, on ne voyait pas vraiment de ventes automobiles. Les ventes automobiles avaient profondément chuté au cours du deuxième trimestre de l'année 2020 et ensuite avaient plafonné sur un plus bas pendant 5-6 mois. Donc ici maintenant, ça explique quelque chose d'important pour l'économie française, c'est que ces groupes automobiles ont été profondément sanctionnés. Alors, si l'on veut véritablement comprendre la dynamique, l'impact de la crise du coronavirus sur les exportations françaises, c'est de voir qu'en réalité, sur par exemple les exportations aéronautiques et automobiles, la France présentait en 2019 un surplus équivalent plus ou moins à 14 milliards d'euros et aujourd'hui est en déficit. Donc là, vraiment, il y a eu quelque chose qui a marqué un grand secteur, un grand pan des industries exportatrices françaises. Au total, pour le secteur des, les exportations de biens, en réalité, la France a perdu 82 milliards d'exportations. Puisque ce que vous m'avez présenté comme chiffre, c'est un solde. Ce solde, bien, il montre aussi que la France a importé moins d'énergie. La crise du commerce mondial fait qu'on importe moins, qu'on exporte moins. Dans le cas français, la pénalisation des exportations a pesé plus lourd que l'allègement des importations d'énergie. Au total, 82 milliards d'exportations ont été perdues pour la France, dont 35 milliards pour le secteur des transports. Et si on calcule les choses en base annuelle, de 2019 à 2020, en réalité, les exportations automobiles françaises ont chuté de près de 22%. L'aéronautique et le spatial ont chuté d'un peu plus de 45%.
Les États-Unis perdent la bataille pour l'Afrique. Les analystes américains ne cachent pas leur vive inquiétude quant à la perte d'influence de Washington sur le continent africain. Et ce, face notamment à ses principaux adversaires géopolitiques, parmi lesquels on peut compter la Chine et la Russie. Dans un article récent paru sur Foreign Affairs, les auteurs s'inquiètent vivement du décroissement des positions états-uniennes en Afrique face aux grandes puissances internationales comme la Chine et la Russie. Les auteurs du dit article ne sont pas des inconnus. Marcus Hicks est un général de division de l'armée de l'air américaine à la retraite, ayant servi en qualité de dirigeant du commandement des opérations spéciales américaines en Afrique de 2017 à 2019. Kyle Atwell est quant à lui un officier en service de l'armée américaine, doctorant à la School of Public and International Affairs de l'Université de Princeton, co-animateur du podcast Irregular Warfare. Enfin, Dan Collini est un officier de l'armée américaine également en service actif et associé des chefs d'état-major interarmés. Tous les trois s'inquiètent donc de l'affaiblissement de la position états-unienne en Afrique, affirmant qu'à l'heure actuelle, c'est la Chine et la Russie qui remportent la compétition. Toujours selon eux, les États-Unis ont un besoin urgent à développer une nouvelle stratégie africaine globale. En tant que militaire ancien et actif, dont l'un a dirigé le commandement des opérations spéciales des États-Unis en Afrique de 2017 à 2019, nous considérons que les États-Unis devraient se positionner comme le partenaire privilégié des pays africains à une époque de rivalité croissante entre les grandes puissances. Ne pas le faire mettrait en péril les intérêts américains sur le continent et possiblement la sécurité intérieure des États-Unis. Il existe en effet nombre de raisons à considérer que les États-Unis perdent la bataille pour l'Afrique. La Chine est depuis déjà un bon moment le principal partenaire économico-commercial du continent africain. À titre d'exemple, si en 1999, le volume des échanges entre la République populaire de Chine et les pays africains n'était que de 6 milliards d'équivalents de dollars, en 2010, le chiffre dépassait déjà les 100 milliards et avoisinait les 200 milliards en 2019. Et selon le cabinet McKinsey, les flux financiers de la Chine à destination de l'Afrique seraient d'environ 15% plus importants que les chiffres officiels lorsqu'on y inclut les flux non traditionnels. D'ailleurs, et toujours selon ce cabinet de conseil en stratégie d'envergure internationale, la Chine est également une source d'aide à croissance rapide ainsi que la plus importante source de financement des projets de construction dans les pays africains. Des contributions qui ont soutenu nombre des développements les plus ambitieux en matière d'infrastructures en Afrique au cours des dernières années. Également sur la base de pays comme l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, Pékin considère ses États africains comme de véritables partenaires engagés de manière fiable et stratégique pour les intérêts économiques et politiques de la Chine. Ces pays ont également créé une plateforme solide pour un engagement chinois continu grâce à leur participation de premier plan à des stratégies comme la ceinture de la route, appelée également la nouvelle route de la soie, leur permettant donc de bénéficier à une croissance rapide et continue des investissements chinois. Pour Forbes, la Chine est incontestablement et de loin le principal acteur du boom des infrastructures en Afrique, revendiquant une part de 40% qui continue d'augmenter. Et que, pendant ce temps, les parts des acteurs occidentaux chutent brutalement. L'Europe est passée de 44% à 34%. Dans le cas états-unien, la chute est encore plus évidente, de 24% à seulement 6,7%. Retournons à l'article de Foreign Affairs qui mentionne que le rôle de la Russie augmente considérablement aussi. Ces dernières années, la Russie a considérablement étendu sa présence en Afrique, signant des accords militaires avec au moins 19 pays depuis 2014 et devenant le principal fournisseur d'armement du continent. En ajoutant que quelques jours seulement après l'annonce des États-Unis de retirer leurs troupes de Somalie en décembre 2020, la Russie a déclaré avoir conclu un accord pour établir une nouvelle base navale à Port-Soudan. À ce titre, la frégate russe de classe Amiral Grigorovitch est arrivée tout récemment au Soudan. Un positionnement russe qui, selon les experts, notamment occidentaux, donnera à la Russie de nombreux avantages, le tout à un emplacement stratégique. Le partenariat russo-africain ne se limite évidemment pas qu'à la sphère militaro-sécuritaire. Pour rappel, en 2019, la Russie a accueilli dans la ville de Sotchi le premier sommet Russie-Afrique de l'histoire, ayant réuni près de 10 000 participants, représentant pratiquement tous les pays du continent africain. Le volume des échanges entre la Russie et les pays africains continue lui aussi d'aller à la hausse, de seulement 760 millions d'équivalents de dollars en 1993 à plus de 20 milliards en 2018. À titre de comparaison des mouvements des échanges, il faudrait noter que le volume des échanges entre les États-Unis et l'Afrique en 2020 représentait moins d'un tiers de ce qu'il était en 2008. Pour finir, il serait certainement juste de rappeler que la perte d'influence américaine sur le continent africain n'est pas seulement due à la montée en puissance de la Chine et de la Russie ou au désintérêt vis-à-vis de l'Afrique durant l'administration Trump. L'histoire oblige, les États-Unis ont, au même titre que les pays d'Europe de l'Ouest, joué un rôle majeur dans le commerce honteux lié à l'esclavage, d'Afrique vers les États-Unis évidemment, et que ce rôle néfaste ne s'est pas seulement limité à cette période douloureuse pour la mémoire des Africains et des Afro-descendants, mais s'est largement poursuivi durant le XXe siècle.